La justice est la cité idéale de Platon. Dans la République, Platon ne se contente pas de définir la justice ou de rêver une cité parfaite. Il tisse une tapisserie philosophique et symbolique où l'âme humaine et la société se reflètent l'une dans l'autre. La justice pour lui n'est pas une simple règle juridique, mais une harmonie profonde, un équilibre entre les parties d'un tout, qu'il s'agisse de l'individu ou de la collectivité. La cité idéale, quant à elle, est une utopie qui transcende les contingences historiques pour devenir un miroir de nos aspirations et de nos luttes intérieures. Platon commence la République par une question posée par Socrate. Qu'est-ce que la justice ? Pour y répondre, il propose une méthode audacieuse. Examiner la justice dans une cité plus vaste et donc plus lisible que dans une âme individuelle. Ainsi naît la cité idéale, un projet théorique construit de toutes pièces pour refléter un ordre parfait. Cette cité n'est pas un lieu géographique, mais une abstraction, un modèle pensé pour révéler des vérités universelles. La cité idéale est structurée en trois classes. Chacune correspond à une fonction essentielle et à une partie de l'âme humaine. En premier lieu, les philosophes rois, représentant la raison. Ils gouvernent grâce à leur connaissance des idées, notamment celle du bien. Leur rôle est de contempler la vérité et de guider la cité vers cet horizon. Ensuite, les gardiens, incarnant le courage. Ils protègent la cité tant contre les ennemis extérieurs que contre les désordres internes. Leur vertu est la vaillance, tempérée par l'obéissance à la raison. Et en dernier lieu, les producteurs. Associés au désir, ils incluent artisans, paysans, commerçants, tous ceux qui produisent les biens nécessaires à la vie matérielle. Leur vertu est la tempérance, la modération dans leurs appétits. La justice dans cette cité n'est pas une loi imposée, mais un état naturel. Elle émerge lorsque chaque classe remplit sa fonction propre sans empiéter sur les autres. Comme dans une symphonie, la beauté naît de l'accord entre des instruments distincts, jouant avec leur partition. Voyons maintenant la justice comme ordre cosmique. Dans un premier temps, la justice individuelle et collective. Platon établit un parallélisme saisissant. La justice dans la cité reflète la justice dans l'âme. Une âme juste est celle où la raison gouverne, le courage soutient et les désirs obéissent. Une cité juste suit le même schéma, les mêmes philosophes dirigent, les gardiens protègent, les producteurs suivent. Cette analogie n'est pas fortuite. Elle suggère une unité profonde entre l'individu et le social, une résonance ontologique. La justice n'est pas un contrat arbitraire, mais une participation à un ordre éternel, celui des idées. En second, la suprématie de la raison. Pourquoi les philosophes rois ? Parce que seule la raison, éclairée par la contemplation du bien, peut voir au-delà des apparences et des passions. Les gardiens, sans cette vision, risquent de verser dans la brutalité. Les producteurs, livrés à leur appétit, sombreraient dans l'avidité. La raison n'est pas une tyrannie, mais une lumière, comme le soleil dans l'allégorie de la caverne. Elle rend tout intelligible et viable. Cette idée défie nos démocraties modernes, où l'opinion prime souvent sur la sagesse. Dans un troisième temps, l'éducation est le mythe des métaux. Pour maintenir cet ordre, Platon propose une éducation rigoureuse, surtout pour les gardiens et les philosophes. Les enfants sont testés dès leur plus jeune âge, par des exercices physiques, musicaux, mathématiques, pour révéler leur nature. Pour justifier cette hiérarchie, ils inventent une noble fiction, le mythe des métaux. Les âmes contiennent soit de l'or, les philosophes, soit de l'argent, les gardiens, ou soit du bronze, les producteurs. Déterminant ainsi leur rôle, ce mensonge stratégique vise à unir la cité, mais soulève une question éthique. La vérité doit-elle céder à l'harmonie ? Dans un quatrième temps, la communauté des biens et des familles. Chez les gardiens et les philosophes, Platon abolit la propriété privée et la famille nucléaire. Les femmes et les hommes partagent tout, biens, enfants, partenaires, pour éviter l'égoïsme et renforcer l'unité. Les enfants sont élevés collectivement, ignorant leurs parents biologiques. Cette radicalité vise à briser les attachements personnels qui divisent, mais elle choque notre instinct individuel. Est-ce une perte ou une élévation ? 5. La décadence des régimes. Platon décrit aussi comment une cité idéale peut dégénérer. De l'aristocratie, gouvernement des meilleurs, à la timocratie, règne de l'honneur. Puis à l'oligarchie, pouvoir des riches, à la démocratie, chaos des désirs. Et enfin, à la tyrannie, domination d'un seul appétit. Ce cycle n'est pas qu'historique, il reflète les déséquilibres possibles dans une âme ou une société. La justice est fragile, un fil tendu au-dessus de l'abîme. La cité idéale est une métaphore puissante. Elle symbolise l'âme humaine, mais aussi un rêve universel, celui d'un ordre où chaque partie trouve sa place. Les philosophes rois sont notre boussole intérieure, cette voie qui cherche le sens, les gardiens, notre feu, cette ardeur à protéger ce qui compte, et les producteurs, notre corps, ces besoins qui nous ancrent dans le réel. La justice devient alors une danse cosmique, un reflet de l'harmonie des sphères célestes que Platon admirait. Cette cité est aussi un temple. Ces trois classes évoquent des initiations mystiques. Les producteurs vivent dans le profane, les gardiens dans le combat sacré, les philosophes dans la contemplation divine. Elle incarne une aspiration à transcender le chaos humain, à rejoindre l'intelligible. Pourtant, son caractère irréalisable, Platon lui-même admet que cette cité appartient au ciel, non à la terre, la rend poignante, un idéal qui éclaire sans jamais s'incarner pleinement. Voyons maintenant les défis que nous devons relever en tant qu'hommes modernes. Dans un premier temps, une critique de l'égalitarisme. Platon rejette l'idée que tous doivent décider. La justice n'est pas l'égalité des voix, mais l'équité des rôles. Dans un monde où la démocratie valorise le nombre, il nous force à réfléchir qui est légitime pour guider, l'expert ou la foule. Cette tension reste vive encore aujourd'hui. En second, l'unité contre l'individualisme. La communauté des biens définit notre attachement au mien. Platon voit dans la possession une source de division, un écho à nos sociétés où l'accumulation fracture les liens. Peut-on imaginer une vie où l'intérêt collectif prime sur le personnel ? Dans un troisième temps, la fragilité de l'ordre. Le cycle des régimes nous rappelle que l'harmonie est précaire. Nos démocraties, avec leurs excès de liberté ou leurs dérives populistes, flirtent avec les étapes décrites par Platon. La justice exige une vigilance constante dans nos lois comme dans nos cœurs. Et dans un quatrième temps, une éthique de la spécialisation. Chacun son rôle peut sembler peut-être rigide, mais il invite à une vérité profonde. Nous prospérons en cultivant nos forces, pas en imitant autrui. La justice sait trouver sa note dans l'orchestre, pas jouer tous les instruments. Comment faire de cette vision un levier pour votre existence ? Eh bien, voici peut-être un début de chemin concret, inspiré par la cité idéale, pour incarner la justice dans votre quotidien. Identifiez dans un premier temps votre classe intérieure. Réfléchissez. Quelle part de vous domine ? Êtes-vous un philosophe, cherchant la vérité dans le silence ? Un gardien, prêt à défendre vos valeurs ? Un producteur, ancré dans le plaisir et les tâches concrètes ? Notez vos inclinations. Elles révèlent votre métal. L'objectif n'est pas de changer, surtout pas, mais d'harmoniser. En second, mettre la raison aux commandes. Face à une décision, disons un conflit avec un proche par exemple, invoquez votre philosophe roi. Demandez « qu'est-ce qui est juste au-delà de mes émotions ?» Prenez 10 minutes écrivez, ça aide beaucoup, pour peser les faits, pas les impulsions. La raison clarifie, elle ne dicte pas sans écouter. En troisième, canalisez votre courage. Quand une cause vous appelle, une injustice au travail, un ami en détresse, laissez votre gardien agir. Mais alignez-le sur la raison. Pas de colère aveugle. Juste une fermeté éclairée. Un geste courageux, même discret, renforce l'ordre en vous. En quatrième, modérez vos désirs, vos appétits. Argent, confort, reconnaissance sont vos producteurs. Ils ne sont pas à nier, surtout pas, mais à limiter. Si vous voulez acheter quelque chose, demandez, cela sert-il l'harmonie ou l'excès ? La tempérance libère, elle n'étouffe pas. En 5, construisez votre cité personnelle. Votre vie est une petite cité. Vos relations, vos projets, vos routines, qui y gouverne, qui protège, qui produit ? Ajustez les rôles. Par exemple, déléguez à un ami gardien le soin de vous motiver. Ou à un livre philosophe, celui de vous guider. La justice naît quand chaque élément joue sa partition. Alors maintenant, voyons la cité idéale face à notre 21e siècle. Aujourd'hui, la cité idéale semble totalement utopique, voire autoritaire. Nos sociétés valorisent la liberté individuelle, pas la hiérarchie imposée. Pourtant, le diagnostic de Platon reste tout à fait pertinent. Nos démocraties vacillent sous le poids des désirs, consumérisme, populisme, tandis que la raison est reléguée au second plan, noyée dans le bruit médiatique. Le courage, lui, se perd en débats stériles ou en apathie collective. La justice platonicienne nous défie. Pouvons-nous restaurer un ordre, non par la force, mais par la sagesse ? Le communautarisme de Platon résonne avec nos quêtes modernes de sens. Face à l'isolement, à la fracture sociale, son appel à l'unité, même radical, interroge. Que sommes-nous prêts à sacrifier pour un bien commun ? Et son cycle des régimes éclaire nos crises. Ne voyons-nous pas des traces de tyrannie dans les dérives autoritaires actuelles ? Allons maintenant plus loin. Pour Platon, la justice n'est pas une fin, mais une voie pour le bien. Cette idée suprême qui transcende tout. La cité idéale n'est pas un but pratique, mais plutôt une icône, un reflet terrestre du monde intelligible. Chaque acte juste, chaque rôle bien joué est une offrande à cet ordre divin. Les philosophes rois, en contemplant le bien, deviennent presque des prêtres médiateurs entre l'humain et l'éternel. Les gardiens, en se sacrifiant, incarnent une noblesse quasi sacrée, et les producteurs, en modérant leurs désirs, participent à leur échelle à cette harmonie. Symboliquement, la cité est un mandala, un cercle parfait où chaque segment distinct soutient le tout. Elle évoque les cités célestes des mystiques, la Jérusalem biblique, le jardin d'Éden, mais ancrée dans une rationalité à la grecque. Cette dimension spirituelle ajoute une profondeur. Vivre justement, c'est aligner son âme et sa société sur un rythme cosmique, une danse des sphères que Platon admirait dans les mathématiques et l'astronomie. Alors poussons maintenant encore un peu plus loin. La cité idéale n'est pas sans faille. Aristote, disciple de Platon, critiquera son abstraction. Une société sans propriété ni famille est-elle réellement humaine ? L'égalité des sexes chez les gardiens est révolutionnaire, mais leur contrôle reproductif des unions planifiées pour engendrer les meilleurs frôle l'eugénisme. Et que dire du mythe des métaux ? Un mensonge, même noble, peut-il fonder une justice authentique ? Des tensions enrichissent le propos. La cité idéale n'est pas un blueprint, mais une provocation. Elle nous force à peser nos valeurs, liberté ou ordre, vérité ou cohésion, égalité ou excellence. Platon ne résout pas ces dilemmes. Il les pose, brutaux et nus, pour que nous les affrontions. En conclusion, c'est une invitation à devenir un architecte de la justice. La justice et la cité idéale de Platon ne sont pas des reliques, elles sont une torche dans l'obscurité de nos vies. Vous comprenez maintenant que la justice n'est pas un verdict, mais plutôt une harmonie dans notre âme entre vos proches dans le monde. La cité idéale n'est pas un lieu, mais un état d'esprit, un appel à ordonner vos forces, à élever votre raison, à unir vos fragments. Vous voilà armé. Vous savez que chaque choix, écouter votre sagesse, défendre une cause, tempérer une envie, bâtit votre cité intérieure. Vous voyez le cycle des régimes dans vos propres excès ou ceux de votre époque. Et vous portez une question, comment faire de votre vie un reflet du bien ? Platon ne vous donne pas toutes les réponses, mais il vous tend les outils. Une pelle pour creuser, une plume pour rêver, une règle pour mesurer. Alors commencez. Faites de votre quotidien une petite république. Soyez le philosophe qui cherche le gardien, qui protège le producteur, qui nourrit. La justice n'attend pas une cité parfaite. Elle commence là, dans vos mains, aujourd'hui. Vous n'êtes plus un simple spectateur du mythe. Vous en êtes le bâtisseur. C'était David pour le podcast de philosophos.fr.